Le Seigneur m'a dit qu'il voulait faire de moi un nouveau fou, pazzo, dans le monde. Et Dieu ne veut pas nous conduire par une autre science que celle-là. Votre science et votre sagesse à vous, Dieu s'en servira pour vous confondre. Suivit l'étonnante menace. Dieu a ses gendarmes pour vous punir, et je lui fais confiance. Silence et consternation. Les frères tremblaient. Ugolin comprit que dans des moments comme celui-là, le pazzo s'exprimait sous le coup d'une inspiration et ne répondit pas. Quel que fût le mérite d'Ugolin, il n'empêche qu'en lisant ce récit, on ne songe aux commentaires de Jacques de Vitry sur les chapitres de la fraternité. Je crois que c'est pour la honte des prélats qui sont comme des chiens muets, incapables d'aboyer, que le Seigneur, par ses hommes simples et pauvres, veut sauver beaucoup d'âmes avant la fin du monde. Fidèle à sa vocation, François aboyait vaillamment quand il le fallait. À Florence, déjà, Ugolin avait prévenu François des manœuvres de la curie pour adapter les idées du poverello aux normes traditionnelles de la vie religieuse. Pour François, accepter, c'était trahir. On ne pouvait pas le faire taire ce jour-là. Il fallait attendre. Pendant que s'exhalait l'indignation de leur père, les frères s'entretenaient dans les prés et les bois autour de Sainte-Marie-des-Anges. Par groupe de 50 ou 60, ils s'étaient assis sur leurs nattes de paille tressées et parfois cessaient tous de parler, se plongeant dans un profond silence qui faisait grande impression, parce qu'il en disait plus que ne l'eussent fait les sermons les plus savants. De tous côtés, on venait les regarder sans rien dire. La curiosité seule n'agissait pas. Un élan instinctif menait ces hommes et ces femmes vers ces frères qui avaient tout quitté pour l'Évangile. Fuir le monde était une tentation confuse qui habitait d'innombrables âmes de ce temps. Mais c'est un rêve des âmes depuis les premiers jours de notre histoire. Plus d'une fois, ces jours-là, des postulants se détachaient de la foule, gagnaient la portioncule et demandaient l'habit des frères. François les recevait lui-même, comme il savait recevoir quelqu'un que Dieu lui envoyait. Le don de lire dans le cœur de l'homme lui inspirait des paroles qu'on n'oubliait pas, éclairant toute une vie. Parmi tous les personnages venus parfois de loin se trouvait Dominique de Goussman, qui venait de fonder l'ordre des prêcheurs. Il admirait François, et n'aurait pas demandé mieux que mineurs et prêcheurs se joignissent pour ne former qu'une seule troupe et n'avoir qu'une seule règle. Mais le poverello, poliment, s'était récusé. À ce chapitre de 1219, il s'étonna que frère François n'eût rien organisé pour le ravitaillement de son imposante famille spirituelle et s'en fut remis à la générosité du peuple. Or, là où François comptait tout bonnement sur la charité de Dieu, Dominique décelait une imprévoyance radicale, un manque sérieux d'esprit d'organisation. En cela, ces deux hommes, l'Espagnol et l'Italien, différaient, mais les vivres continuaient à venir en surabondance. Pourquoi faut-il ajouter que les jours suivants, des murmures commencèrent à se faire entendre chez ces religieux physiquement désoccupés? On prenait soin d'eux, la nourriture ne manquait pas, néanmoins ils récriminaient. Frère Léon eut une vision du Christ se lamentant sur leur ingratitude. Que voulait-il donc? Réunis par milliers, ils révélaient leurs griefs. Les évêques ne leur permettaient pas de prêcher. François alla rabrouer ses enfants de la belle manière. « Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, et ne me laissez pas convertir le monde entier comme Dieu le veut. Les évêques se refusent à ce que vous prêchiez? Convertissez les prélats par votre obéissance. Ils vous demanderont eux-mêmes de convertir le peuple. » Ces mêmes frères dévoués, mais parfois querelleurs, furent le sujet d'un retour sur lui-même pour le cardinal Ugolin, lorsque, avec sa suite de chevaliers et de clercs, il se promena sur les lieux du chapitre qui tirait à sa fin. Là où dormaient les frères, on eût cru qu'y gîtaient des bêtes. Devant cette marque de pauvreté parfaite, Ugolin ne cacha pas son émotion et versa des larmes. Dans un mouvement d'éloquence qui fit grand effet, il s'écria: « Voilà où dorment les frères. Quel sera notre sort à